Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée au récit d'un combattant de la guerre 1914-1918. Ce combattant, Guy Allais, a laissé un ouvrage paru en 1917 dont le titre est « Là-bas avec ceux qui souffrent ». Il s'agit d'un extraordinaire témoignage sur son vécu, son ressenti et ses réflexions. 50 pages seulement, dont des parties caviardées par la censure de l'époque, jamais retrouvées. C'est un auteur dont on ne sait presque rien en particulier sur son devenir après cette publication. On sait seulement qu'il était affecté au 74e régiment d'infanterie de Rouen à la déclaration de guerre. Et c'est ce document, devenu introuvable de surcroît aujourd'hui, que nous vous proposons de découvrir ce jour dans sa presque intégralité. C'est Alain Bert, comédien et chanteur dont le curriculum vitae n'est plus à présenter, qui a bien voulu pour Radio Canut l'émission Vendébière, prêter sa voix à cette adaptation radiophonique de ce texte que vous allez entendre une heure durant. Grand merci à lui et bonne écoute.
Là-bas avec ceux qui souffrent, de Guy Allais. Pour les mamans, Courgivaux, septembre 1914. C'est aujourd'hui, vers le milieu du jour, qu'il est tombé. Les soldats avançaient en tirailleur, à travers bois, et faisaient de grands bonds, la tête basse, très vite à cause des balles qui passaient, claquant aux arbres, si nombreuses qu'elles faisaient en passant une longue plainte douce, un froissement continu de voiles qu'on déchire. Les hommes tués tombaient la figure dans l'herbe, sans crier, avec un grand choc sourd. Les soldats couraient plus vite et se couchaient pour tirer devant eux, sans rien voir. Lui, je l'ai vu tomber. C'est en plein ventre que la balle est entrée. Je ne l'ai pas entendu gémir, mais sa figure est devenue blanche, toute blanche, comme une pierre de craie. Je ne crois pas qu'il ait remué beaucoup, deux ou trois fois peut-être. Puis son corps est devenu tout flasque, et sa pauvre tête s'est enfoncée dans l'herbe, les yeux grands ouverts. Un peu d'écume rose a coulé sur son col de capote, par les coins de sa bouche. Vers le soir, il a repris connaissance. Tout autour de lui, sous les arbres, c'est déjà la nuit qui vient, la nuit terrible à ceux qui vont mourir. D'abord, il n'a pas souffert. Sa tête lui semblait légère, si légère qu'il n'a pas su tout de suite ce qui était arrivé. Puis, la douleur est tombée sur lui d'un seul coup, plantant dans sa chair une griffe si dure que tout son corps en a frémi. Alors ceux qui mouraient aussi dans l'herbe, autour de lui, ont entendu le cri terrible que sa pauvre gorge a poussé. Et puis, ce cri s'est assourdi très vite, pour devenir la plainte affreuse, si profonde, de ceux qui luttent contre la mort. C'est à ce moment-là qu'il vous a vu, et qu'il s'est mis à vous appeler de tout son être, de sa pauvre chair sanglante et de son âme angoissée, à vous appeler sans cesse sur ce ton monotone et si triste qu'ils ont tous. Maman, 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 pendant des heures. Les heures si longues de cette nuit dernière, où ses yeux chavirés sous ses paupières blanches vous ont vu. Et tous, autour de lui, avaient cette même plainte navrante d'enfant qui souffre. Sa voix s'est affaiblie vers le matin, à cause du sang qui s'en allait et qui faisait sous lui une flaque plus grande. Puis, son délire a commencé. Alors, il a cessé de souffrir, et ses yeux vous ont perdu. Nul ne sait quel songe bizarre a hanté son agonie jusqu'au jour. Il a crié deux fois du fond de sa torpeur. « Donnez 40 ! Donnez 40 !» Et sa voix avait cette monotonie, sans accent, des dormeurs qui parlent en rêvant. Enfin, l'aube s'est levée, et votre fils est mort, doucement. Tout doucement, ses deux bras se sont étendus à ses côtés. Ses mains, une ou deux fois, ont gratté la terre. Son corps s'est raidi. Sa bouche s'est ouverte et sa face est devenue de cire. Le soleil de midi, quand il perça sous les branches, éclaira sa figure déjà assombrie et ses lèvres déjà noires. Des mouches, bourdonnant, se sont posées sur son visage. Un blessé, poste de secours, ravin du Basile, avril 1916. Celui-là fut touché ce matin, d'un tout petit éclat d'obus à la tête. Il est venu tout seul, ici, se faire panser. Très excité, parlant beaucoup, il disait « Ce n'est rien, je vais m'asseoir une minute. » Au-dessus de l'oreille, un petit trou rougeâtre. À peine visible. Simple écorchure de la peau, sans doute, par le petit fragment de fonte. L'infirmier, déjà, lui avait pris la tête pour mettre un peu d'iode sur sa plaie quand, tout à coup, je le vis qui regardait ses doigts, puis la tempe du côté opposé, et qui appelait d'un signe l'aide major. L'éclat d'obus a traversé le crâne. Un peu de cervelle a coulé, et l'homme est là, debout. Il ne souffre pas, seulement il parle. Il parle sans cesse, répétant toujours les mêmes phrases. Ses yeux sont étranges, un peu voilés. L'un d'eux se ferme à demi. Ce qui donne à sa pauvre figure un air de rire qui fait mal à regarder. D'abord, il a crié contre les gens qu'il avait fait asseoir. Et qui voulait qu'il reste là, sans rien faire, pour une égratignure. Il a fallu que le médecin le raisonnât et lui dit « Attends un peu, c'est moi qui te garde. On va te donner quelque chose à boire, tu t'en iras bientôt, dans une heure. Il faut que tu te reposes. » Le blessé s'est assis sans mot dire, en haussant les épaules. Tous, autour de lui, nous étions là qui savions sa blessure et qu'il allait mourir. Lui ne savait rien. Il est resté un bon quart d'heure, sans presque un mouvement, puis, doucement, il a penché sa tête et s'est mis à vomir sur lui, sur ses mains, sans effort, sans même s'en apercevoir. Sa bouche s'est tirée dans un affreux sourire. Alors, on l'a couché sur un brancard, à côté des autres. Je suis parti rejoindre ma section un peu plus haut, sur le bord de la crête, où nous sommes terrés dans les trous d'obus qu'il faut tenir et qui nous sauvent des balles. Le jour a fini par s'éteindre, après les heures brûlantes, si longues, qui furent celles d'aujourd'hui. Depuis midi, le bombardement n'a pas cessé une minute. L'attaque allemande n'a pas eu lieu. Vers 5 heures, un avion de chez nous les a vus, massés, tassés dans leur parallèle, attendant le signal du départ. L'aviateur a demandé le tir de barrage et pendant plus d'une heure, nos canons ont donné, jetant sur les soldats gris, affolés, des milliers de projectiles. Je crois que si l'attaque était venue, les Allemands nous auraient pris. Les hommes n'étaient plus que des bêtes fourbues, endormies au soleil, à plat ventre au fond des trous d'obus, avec leurs sacs sur la tête. La peur physique et le martèlement continu des gros obus qui tombent finissent par abattre les plus résistants au fond d'un lourd sommeil. La lune s'est levée. Sur la clarté pâle de son disque, un tronc mort se détache, brisé par les morceaux d'obus. La bataille est finie pour ce soir. et petit à petit, le silence descend. Il faut manger, travailler, pour demain recommencer à se battre. Des deux côtés, on fait la trêve, pour les mêmes besoins. Les hommes, qui savent qu'elle sera courte, se hâtent fébrilement. Et tout le bois se peuple des survivants qui, de toutes parts, sortent des trous. Je suis allé jusqu'au poste de secours avec deux hommes, pour chercher un brancard. Un de chez nous est là depuis 10 heures, les deux cuisses broyées. Et les blessés sont si nombreux qu'il faut soi-même brancarder ceux qu'on trouve au hasard. Devant moi, le ravin descend presque à pic. Sur la pente raide, une fourmilière de soldats qui s'agitent, se hâtent et s'interpellent. Partout, des blessés cherchent le poste de secours et se traînent. Chaque minute, un obus passe, prodigieusement rapide, à la même place, et va tomber là-bas, dans le bois du chapitre, sur le sentier qu'il faut prendre pour aller à Souville. C'est le seul chemin pour sortir du ravin. Les blessés qui peuvent s'en aller eux-mêmes ont si peur d'être tués en remontant la pente qu'ils préfèrent attendre le petit jour où souvent la pièce s'arrête pendant 1 heure. Il est tombé pendant le jour tellement d'obus que vraiment j'ai du mal à retrouver ma route sur le sol bouleversé. Et puis, c'est déjà la 3e nuit que nous passons et les forces s'en vont. Devant moi, tout le fond du Basile est rempli d'une fumée bleuâtre qui sent le soufre et prend à la gorge. L'air pesant est immobile. Mais quand parfois un souffle chaud se lève, on respire cette odeur étrange des champs de bataille. Parfum chimique et senteur pourrie de chair qui brûle. J'ai fini par trouver l'entrée du poste de secours. La foule était si grande de ceux qui venaient là que j'ai dû m'arrêter et attendre. C'est alors que j'ai revu le blessé de ce matin. Un brancardier qui sortait prendre l'air un instant pour ne pas défaillir au fond de ce couloir sombre où l'on pense les hommes entassés était celui que j'avais vu le matin, les doigts pleins de cervelle au contact du crâne percé. Et voici ce qu'il me dit. « Te rappelles-tu de celui qui est venu quand tu étais là ? Eh bien, mon vieux, tu parles d'un phénomène. » Toute la journée, il a fait joujou avec deux cartouches qu'il voulait faire tenir en équilibre l'une sur l'autre. Il est mort seulement tout à l'heure. Tiens, il est là. Ceux qui sont morts, on les pousse devant la porte. Et le dernier est celui-là. Je distingue sa tête au paquet blanc taché des pansements qu'on a mis sur son crâne. Une jambe est pliée. L'autre se dresse, déjà raide, dépassant le bord du trou d'obus où le mort repose. Le cimetière de Bévaux, avril 1916. Hier, nous sommes arrivés à Audinville, partis vers midi de la citadelle. Le régiment vient de reprendre le bois de la Caillette et attend ici les camions qui viendront nous chercher. Nous irons au repos loin d'ici, loin de ce Verdun sinistre et de son bruit de forge gigantesque qui ne cesse ni de jour ni de nuit. Au repos, dans un pays où il y aura des feuilles, de l'herbe, du silence, où nous arriverons maigris, sales, la figure tirée par 15 jours de souffrance et d'angoisse. Il pleut. La pluie tombe, froide, monotone. Sous les portes, des hommes qui fument regardent passer silencieux les attelages d'artillerie jaunes de boue liquide avec leurs chevaux fantômes, qu'on dirait taillés dans du bois tant leur chair est maigre et durcie. J'ai quitté Audinville pour aller jusqu'à l'hôpital Bévaux, chercher la tombe de Jean et lui dire adieu avant de partir. Vraiment, je n'aurais pas cru la route si longue. À gauche, le canal et la Meuse se suivent, estompés dans les nuages de pluie fine que chasse le vent par grandes ondes régulières. Sur le canal, des files de péniches immobiles, arrêtées là depuis que les Allemands occupent Saint-Mihiel. On y loge des soldats. Sur quelques-unes, les mariniers vendent du café. Il n'y a plus de vin par ici. Un cheval mort sur la route, écrasé par un camion. On l'a poussé dans le fossé, sur le dos. Ses jambes sont raides et se dressent, écorchées, couvertes de sang qui fait des stries brunes sous le poil. Son ventre énorme et lisse est ruisselant de pluie. Toute la région arrière de Verdun a la même teinte, jaune et pelée, sans une tache verte où l'œil se repose. Des centaines et des centaines de petites tentes s'alignent. Entre les files, des chevaux au piquet qui tapent, se mordent ou jettent vers le ciel leur pauvre tête. Aux naseaux, la musette vide qu'ils secouent et remâchent pour tromper la faim. Qu'il est triste ce sol, où toute l'herbe est broyée, arrachée, dévorée, où les arbres ont l'écorce rongée par les chevaux, partout où les pauvres bêtes ont pu saisir avec leurs grandes dents jaunes. Voilà le cimetière devant l'hôpital. Comme ils sont nombreux ceux qui dorment là. Tous ont, piqué sur leur tombe, une petite croix avec une plaque en fer blanc qui porte leur nom, le numéro de leur régiment et le jour de la mort. Ici, ce sont déjà des morts un peu connus qu'on a mis sous la terre. Ils sont identifiés dans l'hôpital sinistre où les voitures les amènent pour qu'ils meurent. Je pense à l'angoissante agonie de ceux qui viennent finir là. Sortir de l'enfer et venir jusqu'ici, cahotés, secoués, hurlant dans les voitures qui sautent sur les routes en fondrière, voir un lit, des médecins, ne plus entendre qu'assourdi l'affreuse machine à tuer qui ronfle et secoue la terre, là-bas vers Souville, et puis mourir, s'en aller après ce grand coup d'espoir. Et mon pauvre Jean est mort, là. Au matin, il y a 2 jours. J'ai eu peur un moment de ne pas trouver sa tombe. Il y en a tant déjà de ces petites bosses de terre, tant de ces petites croix dressées sous la pluie, avec le tintement métallique des plaques aux rafales qui passent. La voilà, cependant. Il n'est pas seul. Le capitaine de B est près de lui, et l'autre. D'autres qui portent sur leur croix 74e d'infanterie et la date, avril 1916. J'en reste là, le cœur d'abord insensible et sans chagrin. J'avais déjà vu cette indifférence atroce devant la mort que l'on voit, que l'on touche du doigt. Pour nous, soldats, nous ne pouvons pas comprendre tout de suite l'horreur de ce « jamais plus », de cet arrachement d'un être aimé. Il faudra que mes nerfs se détendent, que je dorme. Il faudra que j'oublie. Plus tard, dans 8 jours, dans 15 jours, un son de voix, une phrase me reviendront. Le sentiment d'une présence familière près de moi. Le pauvre mort aura mis sa main sur mon épaule pour me dire « Je suis là ». Alors, je pleurerai, je sentirai mon cœur se tordre et j'appellerai du fond de ma douleur celui qui est parti. Que jamais, jamais je ne verrai plus. Mon pauvre Jean, pourquoi m'as-tu laissé? J'ai déjà vu tuer mon frère et je m'étais fraternellement lié à toi. Nous souffrions les mêmes souffrances. Et combien de fois les mêmes souvenirs nous ont fait sourire ou pleurer? Et je n'étais même pas près de toi à ton heure dernière. As-tu pensé à moi au moment de partir, au fond du brouillard rouge où tes yeux se perdaient? As-tu pensé que je n'étais pas là pour te voir mourir? Et maintenant tu dors, là, un peu de terre froide sur ton front de cire. Tu dors au milieu de tes amis, de ceux que nous aimions tous, et qui sont morts avec toi, dans ce grand hôpital triste. À côté de sa tombe, tout près, un grand four de briques fume, et l'odeur affreuse de ce qui brûle soulève le cœur. Un tas énorme, une meule véritable de pansements, que l'hôpital a versé là et que deux hommes en calot, sous la pluie qui ruisselle, prennent à la fourche et mettent au brasier. Il y a de tout là-dedans. Des compresses de tous les rouges. Depuis le sang frais jusqu'au sang pourri, strié de pus jaune et crémeux, vert sombre ou noir. J'ai le cœur saisi d'un tel dégoût, d'un effroi si terrible, en pensant que tout cela vient des hommes, que peut-être un jour, on enlèvera de mon corps des paquets sanglants et pourris, de ce qui est ma chair, vivante aujourd'hui, saine et pleine de sang. Je suis rentré sous la pluie qui tombe, monotone, et que le vent me jette à la figure. Là-bas, c'est Verdun qui s'allume pour le soir. Les fusées montent, s'épanouissent, rouges, vertes, blanches, avec la grande clarté subite des obus incendiaires. Et toujours ce bruit de choc qui ne cesse pas, de machines à tuer qui grondent, machines à tuer toute la force, toute la jeunesse qui vient là, se jeter et mourir pour arrêter Guillaume et ses soldats gris. Dans la parallèle de départ, Douaumont, mai 1916. Il est 10 heures. À l'heure H, 1h-10, le commandant vient d'envoyer aux officiers sa montre et l'ordre écrit. La compagnie attaquera l'élément de tranchée, dit tranchée des Hongrois, compris entre les points A et C sur le plan directeur. Et voilà, c'est fini. L'ordre d'attaque est arrivé. Les hommes taillent des gradins dans le parapet pour sauter tout à l'heure. Je sais bien que nous sommes venus ici pour prendre Douaumont. Ce n'est un mystère pour personne qu'il va falloir, une fois de plus, exposer sa chair. On le sait. Les hommes le savent tous. Et pourtant. Pourtant, jusqu'à maintenant, jusqu'au passage de cette montre, de ce pli que j'ai eu entre les mains, que j'ai donné à l'agent de liaison pour qu'il le porte au lieutenant, ma pauvre tête a douté, a espéré. Je n'en sais rien moi-même. Un contre-ordre, une relève, l'opération remise, que sais-je. Un tas de folies que ma volonté rejette à mesure qu'elle se présente, et que je ne veux pas croire, auxquelles je ne veux pas penser, tout entier à ce sentiment qu'il faut avoir. Se tenir correctement devant la mort. Ce n'est pas bien difficile de dire cette petite phrase. Mais quel effrayant effort il faut faire, mon Dieu. Quelle chose affreuse. Se dire, en ce moment, je suis moi. Je suis tout entier moi. Mon sang circule et bat dans mes artères. J'ai mes yeux. Toute ma peau est intacte. je ne saigne pas. Si on arrêtait, si on cessait cette affreuse guerre maintenant, tout de suite, je pourrais m'étendre et dormir sous ce soleil. Ah, dormir en pensant que c'est fini, que je vivrai, que j'aurai des joies, des peines, de la douleur, des jouissances, que je ne serai pas tué. Ô faiseur de belles phrases qui avez écrit dans vos journaux, qui avez peint de couleurs éclatantes l'enthousiasme et l'ivresse des soldats qui vont donner leur peau, comme je voudrais vous voir ici, près de moi, vous tenir à l'épaule et rire de la pâleur d'angoisse qui blanchirait vos faces de menteurs. Ce n'est pas le sourire aux lèvres que meurt le soldat en faisant ce devoir. Ce serait trop facile. 10h15. Encore 35 minutes. Les Allemands répondent à notre tir. Ce matin, à 4h, à notre arrivée, ils ont envoyé 2 obus en plein dans les parallèles. Après, plus rien. Des vieux comme moi ont regardé le point de chute et se sont tus. Un caporal de ma section a dit simplement, avec ce rire affreux qu'ils ont quand ils sentent la mort et qu'il lui rit à la figure, « Tiens, Fritz a marqué sa place. Irons-nous jusqu'au départ de l'attaque ?» Maintenant, il tire sur nous. C'est mathématique et précis. Nous sommes dans une ancienne tranchée à eux. Ils sont payés pour en connaître la place. Ce souffle qui se lève derrière cette haute crête, ce souffle qui vient de si loin, de là-bas où l'on devine l'artilleur ennemi et sa pièce, au fond d'un trou, je l'entends qui s'enfle. L'obus descend, le bruit augmente. C'est un roulement sourd, au souffle coupé, qui s'enfle, qui s'enfle. Ah, il a passé. Au suivant, et le suivant arrive. Et dire que pendant 23 années, on s'est occupé de moi, de ma santé, de mon bien-être, de mes petites maladies d'enfance. Ah, un qui est tombé juste. Hé, sergent, un tel est tué. Un autre va mourir. Il y a 3 blessés. Il est tué. Ah, s'en aller, se sauver, fuir droit devant soi les lèvres serrées, fuir comme une bête traquée, se sauver à l'arrière, n'importe où, dans les couloirs de Souville, au ravin de Basile. Ils vont nous tuer tout à l'heure. Dans 1 seconde, l'obus sera sur moi, près de moi, sur cette petite pierre qui brille au soleil. Il y aura une grande flamme, un cri, puis je serai là, les cuisses brisées, le ventre déchiré, tout sanglant, les yeux grands ouverts et la face toute blanche. Ou bien ce sera sur ma tête, sur mon casque qu'il tombera. On ne verra rien, j'aurai la tête coupée, arrachée des épaules. Vraiment, ces minutes sont longues. Et toujours se tenir. J'ai même un sourire sur les lèvres. Ah, ce sourire, que de fois je l'ai vu. Ce sourire pâle qui tremble un peu, tiré au coin de la bouche. On doit se tenir correctement devant la mort. Autrefois, avant la guerre, je me suis demandé, souvent avec terreur, comment un condamné à mort pouvait avoir la force de marcher à la guillotine. Je sais maintenant. Et pour nous, c'est plus terrible. Nous avons la souffrance à craindre qui, pour lui, n'est jamais longue. 10h30. Encore 20 minutes. Maintenant, j'ai hâte que l'heure avance. Il faut attaquer. Attaquer tout de suite ou nous serons broyés là, sans bouger. Mon ami J, mon chef de section, fume à côté de moi, tranquille. Moi aussi j'ai fumé tout un paquet de tabac depuis 2 heures. Et je fume encore. Mais lui est plus calme. Il est couché dans le fond de la parallèle, appuyé sur un coude. Je vois sa botte graissée qui reflète le soleil, son Burberry tout neuf, à peine sali, son couvre-casque, un coin de sa figure. Et dire qu'il pense, comme moi, qu'il voudrait vivre, qu'il voudrait tant s'en aller. Je l'ai vu tuer, 20 minutes après, d'une balle en pleine tête, en avant de ses hommes. Il n'a pas souffert. Les hommes sont immobiles, la figure collée dans l'angle du parapet, ramassés, écrasés contre le mur de terre. Il y en a un qui est assis face aux obus et qui regarde ses chaussures. Leurs visages sont calmes. Le mien l'est aussi, j'en suis sûr. J'ai même ri tout à l'heure. Ah, quelle force nous avons, pauvres êtres misérables, pour sourire et tenir calme notre visage, quand tout notre être voudrait bondir et hurler de terreur, quand le moindre poil de notre corps se hérisse à la pensée du coup, du choc brutal que donnera le morceau de fer qui peut nous tuer. Les Allemands sentent venir l'attaque, et leurs tirs s'accentuent. La terre est secouée sans cesse, et sur nous tombe la cendre grise de la poudre. Cette brume qui sent la mort et le soufre, affreuse odeur chimique qui fait étouffer. 11h15. J'ai fait 20 mètres dans la tranchée, enjambant les hommes qui, presque tous, ont salué d'une blague, d'une plaisanterie. J'ai trouvé le lieutenant L, mon ami M, et les ordonnances. Les deux officiers aussi sont tranquilles, comme à l'exercice. Un des ordonnances m'a dit bonjour et m'a versé dans un quart un peu d'eau de vie tiède que j'ai bu et qui m'a fait du bien. Je suis revenu à ma place, devant la marche creusée au mur. J'ai pris mon fusil. Les hommes sont debout, le dos courbé. On va sortir, on sort. En avant, en avant, en avant, nom de Dieu! Un camarade, Douaumont, mai 1916. C'était un compagnon de misère. Nous étions sergents, tous les deux. Je ne l'aimais pas beaucoup. Je l'avais connu autrefois à la caserne, avant la guerre. Je me rappelle qu'à ce moment, nous suivions tous deux un cours d'élèves caporaux. Il était doux, paisible, un peu sournois. Et j'entends, maintenant que j'y pense, sa voix quand il demandait quelque chose. Nous étions tous les deux à la même section. Au repos, c'était toujours une lutte un peu fausse pour savoir qui de nous trouverait une chambre. Nous aimions tous deux la solitude et dormir le matin, longuement, sans penser. Nous étions toujours les derniers quand il fallait se réunir ou rassembler les hommes. C'était le copain, le camarade banal, celui qui demande une cigarette et qui vous offre la moitié de sa boîte de conserve. À la guerre, on est ami ou simplement camarade. C'était un camarade. Et voici qu'il meurt près de moi, ce matin, vers 11h. Une balle lui a crevé le ventre. C'était au départ de l'attaque. Je courais à côté de lui, je l'ai vu par terre une seconde. Sa figure était blanche, toute blanche, et sa main allait et venait pour m'appeler. Je l'ai dépassé, je courais, j'ai reçu un petit éclat d'obus au cou. Puis l'attaque s'est arrêtée sous les mitrailleuses. Et depuis, je tiens une barricade. 5 hommes sont avec moi. Je crois que nous n'irons pas jusqu'au bout sans être touchés. La compagnie a fondu, disparu. Je suis avec un sergent de la 6e et des hommes que je ne connais pas. La barricade est faible. Nous avons juste le temps de remplir des sacs et de les jeter dessus. Sans cesse, Fritz s'amuse à les déchirer à coups de fusil. On reçoit de la terre et des éclats de balles. Il n'y a plus rien à boire. Le lieutenant et mon dernier ami Pierre J, mon chef de section, sont tués, l'un sur l'autre, et nous encombrent. Je ne sais où mettre la musette que j'ai prise à Pierre et que j'ai remplie de tout ce qu'il avait sur lui. Je voudrais bien que son ordonnance arrive pour emporter tout cela. S'il m'arrive malheur, on n'aura rien de lui. tout sera détruit ou volé. Sans doute l'ordonnance viendra ce soir, quand le jour sera tombé. C'est à ce moment-là que je l'ai revu. On l'a traîné sur la plaine, et son tampon l'a couché dans un bout de tranchée qu'il remplit tout entière. Il m'appelle et demande si je suis là. Je voudrais bien qu'il ne soit pas là. Je ne peux pas m'occuper de lui. Et puis, je connais son mal. J'ai vu mon frère mourir de la même blessure. Il mourra plus vite si on le remue. Je le vois en raccourci. C'est le clairon B qui s'occupe de lui. Il est sur le dos, sa tête aux cheveux sales collés par la poussière, est appuyé sur une musette et roule doucement à droite, puis à gauche. Et sa main tient et serre sur ses lèvres un flacon d'alcool de menthe, vide, qu'il suce. Plus bas, la blancheur tachée de sa chemise, son pantalon baissé, ses deux cuisses et le paquet rougeâtre qui bouche le trou, deux ou trois pansements au moins. Mais on ne peut plus les changer, parce que la tranchée est trop basse, et les balles nous casseraient la tête. Pour changer de place, il faut se traîner à plat ventre, et puis à quoi bon? Il veut boire sans cesse. Les blessures au ventre, on ne doit pas boire. D'ailleurs, il n'a plus rien à boire. Ce qui est ennuyeux, c'est de l'entendre qui m'appelle. J'ai eu le malheur tout à l'heure de parler un peu haut, et il a entendu. Alors cela ne cesse plus. « Allez, écoute-moi. Fais-moi emmener par les brancardiers. Ne me laisse pas tomber comme ça. As-tu à boire ?» D'ailleurs, je crois qu'il va se calmer, parce que sa voix change un peu. Il commence à voyager. Le soleil lui tombe en plein sur la figure. Il ne doit pas beaucoup souffrir en ce moment. Il ne m'appelle plus que par intervalle. Entre-temps, il gémit doucement ou crache. Je sais ce qu'il a. Il voudrait cracher tout ce liquide qui coule dans son ventre et le remplit. Mais il ne pourra rien cracher. Cela s'en va par le trou du dos. Sa bouche est toute sèche et son nez se pince, devient mince, mince. Ils s'en vont tous comme cela, ceux qui sont touchés au ventre. Il me semble qu'il dure bien longtemps tout de même. Hier, avant l'attaque, au ravin du Basil, nous étions dans le même gourbi. Vers le soir, il m'a dit « Je suis sûr de ne pas revenir de la guerre, mais ce qui m'effraie surtout, c'est la souffrance. » Sincèrement, bien sincèrement, je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Et puis, j'en ai pas la force. Je dois avoir ma tête d'attaque sous mon casque trop grand. Les yeux brillants, les lèvres jaunes, la figure couverte d'une suie bleuâtre, légère, légère comme de la farine. Nous sommes tous ici de cette teinte grise. Je ne peux pas bouger. Je suis trop fatigué. C'est midi en ce moment, ou 2 heures. Enfin, c'est l'heure du grand soleil qui tombe droit, rendant plus désolée et plus hostile la terre séchée, fendillée, qui tremble chaque fois qu'un obus tombe. Dans cette lumière qui brûle, on regarde crispé, tendu, la lisière jaune des sacs et le ciel bleu, bleu vif au-dessus, pour voir où vont tomber les grenades. Je ne peux pas bouger. J'ai trop peur, si je tourne la tête, qu'il en tombe une sur mon cou, dans mon dos. Tous nous sommes là, couchés, à regarder en l'air. Sous la main, des caisses pleines de grenades pour répondre. Et le soleil qui brûle fait couler le goudron sur les chapeaux de zinc qui protègent l'amorce. D'ailleurs, que faire? On lui a bouché le ventre avec un pansement, le mieux possible. Il est sur le dos. Le clairon lui tient les bras quand il veut remuer. Il n'y a qu'à attendre. Par instant, je pense à l'arrière. Je pense à Belleray, au canal si tranquille. Je pourrais compter les feuilles qui flottent sur l'eau. Je vois, sous le pont, le reflet dansant du soleil. Comme on doit être bien là-bas. et comme tout cela est loin de nous. Le soir tombe, il n'y aura pas d'attaque. Je l'attendais pourtant, cet horrible bout de papier crayonné qui devait venir. À 20h45, la 5e compagnie enlèvera la barricade du boyau Charles à la grenade et continuera l'attaque jusqu'au point 132. Cela a été toute notre vie depuis le milieu du jour, l'attente de cet arrêt de mort, cet épouvantable invite à sauter par-dessus le rempart des sacs. La nuit vient et l'ordre n'est pas arrivé. J'ai causé avec le seul officier qui nous reste. Il paraît que l'attaque est arrêtée. Le 3e bataillon est arrivé sur la crête, mais il y a trop de pertes. Le 129e a le fort. Notre bataillon s'est arrêté sous les mitrailleuses, intact, presque tout le monde. On s'organise sur place. Celui qui a fait une attaque mal préparée, qui s'est arrêté devant les boches, s'est erré à quelques mètres de leur ligne et qui a pu vivre jusqu'à la nuit, celui-là, seul, peut comprendre tout ce que représentent d'espoir ces quelques mots. On s'organise sur place. C'est fini. On s'en ira. On sera relevé sans attaquer. D'autres viendront qui prendront la barricade. Nous, ceux de nous qui auront épargné les obus, nous pourrons nous en aller, nous sauver, un par un, dans la nuit, filer le dos courbé, l'oreille attentive, au souffle qui s'approche, à l'obus qui passe. Filer jusqu'au Basile, jusqu'au ravin hier maudit, ce soir tant désiré. Là-bas, il n'y a plus que les obus à craindre. À la nuit, deux sapeurs sont venus, le restant de la section du génie. Ils ont creusé 5 centimètres et puis se sont endormis de fatigue. On a mis le lieutenant L dans une toile de tente. J'ai trouvé l'ordonnance de Pierre qui a pris la musette et s'est enfui bien vite. J'ai pu faire passer mon pauvre mort sur le parapet. Mon Dieu qu'il était lourd. On ne pouvait pas l'enterrer. Il n'y a pas assez de monde pour enlever les blessés. Il faudra le laisser là. Ce n'est pas ma faute. On ne peut pas l'enterrer. Je n'ai plus entendu qu'une fois le sergent m'appeler. On l'a traîné un peu plus loin, sous un petit auvent, en planche, qui reste. Ses jambes dépassent. Il est à peu près engourdi. Il m'a appelé. J'ai répondu que les brancardiers étaient là. Puis, je suis parti me faire panser. Mon cou me fait mal et j'ai reçu des éclats sur la main. Quand je suis revenu, je ne l'ai plus trouvé. Les brancardiers étaient venus le prendre. Nous avons été relevés 2 jours après. On m'a dit à ce moment-là qu'il était parti tout de suite. À la citerne, où viennent les autos sur la route de Souville, un musicien qui le connaissait l'a mis dans une voiture. Il est mort en arrivant à l'hôpital. En 2e ligne, Bois de Faïs, août 1916. L'obus est tombé vers 10h. Nous étions en train d'écrire sous notre toit de branches. Tout était calme dans le bois, sous les arbres baignés dans l'infinie douceur d'un matin d'été splendide. Le soleil déjà chaud filtrait à travers les feuilles, semant la table de taches claires, dansantes, comme des reflets sur l'eau. Les soldats partaient à la soupe et descendaient la route droite qui va vers les cuisines. C'était le troisième jour de notre repos en deuxième ligne, à 300 mètres des tranchées du ravin des Bœufs. L'obus, en 88, a traversé le bois dans toute sa longueur sans toucher une branche, pour aller tomber sur la pente qui mène au ravin. Les Allemands ont souvent l'habitude de ces tirs de surprise, seul danger dans un secteur aussi tranquille. Vous tous qui avez fait la guerre, vous connaissez la plainte brève des projectiles de ce calibre et le claquement sec en coup de fouet qui brise aussitôt après le coup d'envoi. L'un de nous a dit simplement « Les vaches !» par habitude. Puis nous avons continué d'écrire. On en a reçu tant de ces obus. Seulement, celui-ci est tombé juste. Il nous a tué 4 hommes, et 3 ont été blessés. C'est le coup du malheur. La mort stupide au repos. Si triste. Du fond du bois, un homme est arrivé, en bras de chemise, nu-tête. Il boite et s'appuie sur 2 camarades. Nous l'avons entendu crier avant de le voir, saisi par l'attente du malheur qu'on devine. Il crie de toutes ses forces, une injure qu'il répète, inlassable, ameutant les soldats qui accourent. « Bande de vaches ! Bande de vaches !» C'est Houël, de la 5e section. Il arrive au gourbi des brancardiers, proche d'une autre, et répond aux questions par son cri de colère, hébété par le choc, car ses blessures sont sérieuses. Les 2 cuisses traversées au-dessus du genou. On voit les plaies par les trous de la culotte en lambeaux. Du sang coule au long des jambes. Ses chaussures sont humides et toutes rouges. On le pense, et tout à coup, sans qu'il parle, nous comprenons qu'il y a des morts là-bas. Et nous partons tous les 3, très vite, le cœur serré, pour aller voir là-bas ceux qui sont morts. Quand nous arrivons, 2 brancardiers descendent la pente avec une civière. Le blessé qui ballotte est caché sous une couverture. Les porteurs s'arrêtent et l'un d'eux découvre la figure. C'est Avenel, le cuisinier des sous-offes. Il agonise, une main coupée nette au poignet, la cuisse en bouillie. Ses lèvres sont blanches, affreusement blanches. Il respire encore un peu, par grands efforts haletés qui diminuent, deviennent de plus en plus lents à mesure que la vie se retire. Une de ses dents qu'il avait proéminente, à moitié sortie de la bouche, et qui faisait rire les hommes, apparaît à chaque souffle plus jaune sur la pâleur des lèvres. Les brancardiers ont repris leur charge et s'en vont. Un sergent de la 4e arrive et nous conduit. Le pauvre garçon est livide et sa voix tremble un peu. Il y a de quoi d'ailleurs. L'obus a éclaté au-dessus d'une table où 4 hommes faisaient la manille. Autour d'eux, 2 autres jugeaient la partie. Un sergent est tué, Moulin, arrivé depuis peu de la division où il était secrétaire. Pauvre garçon, que les autres blaguaient quand il vint de là-bas, tout penaud d'avoir perdu sa place. Le choc l'a jeté dans un buisson contre la table. 2 blessés légers sont partis, seuls, au poste de secours. Le sergent qui nous a conduits raconte, et sa voix tremble un peu, car ce sont des anciens qui sont morts. Avenel, quand on l'a ramassé, a dit simplement, pauvre héros sans gloire, « Occupez-vous du sergent d'abord !» Puis, il a perdu connaissance. Autour de nous, les hommes sont troublés et s'agitent. Pas mal de bleus à la section, qui n'ont pas encore vu grand-chose, arrivés depuis Verdun pour combler les vides. Et tout de suite, on s'occupe d'enlever les cadavres, d'effacer jusqu'aux traces de la mort affreuse, stupide, de ces 3 malheureux. D'ailleurs, ils n'ont pas dû souffrir. La table est tachée de sang, déchiquetée par places. L'odeur soufrée de l'explosion demeure aux branches, aux objets qu'on touche. Les lettres. Rupt-en-Veuvre. Novembre 1916. Je ne sais rien de plus navrant que des pauvres lettres naïves qui viennent un beau matin, 3 semaines, 1 mois après la dernière affaire, demandant des nouvelles des disparus. Nous autres, l'habitude nous a rendus très durs. Les soldats qui sont tués, nous les oublions très vite. On les nomme une fois, avec un mot de regret. On dit « La compagnie a perdu quelques-uns des vieux. Un tel a été tué. Vraiment, c'est un malheur. C'était un bon garçon. Et du début... » Le sergent-major vient le jour de la relève, fait l'état des pertes et puis on passe. D'autres soldats arrivent et remplacent les morts. Tant d'amis sont tombés depuis 2 ans de guerre. La consigne est de ne pas penser, de ne pas regretter. On se quitte, on se perd. Quelquefois, en causant avec les vieux qui restent et qui les ont connus, on parle encore d'eux quelques minutes, aux tranchées autour du brasero qui fume, les jours tristes où le besoin nous prend de n'être pas tout seul. Si le mort n'était pas un ami véritable, un des rares amis qui nous aide à souffrir, on l'oubliera bien vite. Et vraiment, il vaut mieux que ce soit ainsi. Seulement, ces lettres sont affreuses à lire. On les reçoit toujours un beau jour de repos quand les nerfs se détendent et qu'il fait si bon revivre. Quand on peut réfléchir et retrouver un peu de son cœur d'autrefois. Depuis 1 mois, nous avons quitté les éparges, après la mine. J'ai eu toute une de mes sections qui a sauté. Pas un homme n'est revenu. Les cadavres ont été brûlés, enterrés. On a retrouvé 2 corps en tout, je crois. Les autres sont portés disparus. Nous n'avons pas la preuve matérielle de leur mort. Personne n'a pu signer leur acte de décès. C'est pour cela que viennent ces lettres. Et jamais je n'ai pu lire ces pauvres demandes sans avoir le cœur qui se serre et sans penser à ceux des miens que j'ai perdus. Ce matin, la femme de Lourmeau m'écrit. Lourmeau, le père Lourmeau, un bon Normand que nous aimions beaucoup, un excellent soldat, toujours calme, poli, jamais une plainte, un de ceux que l'on se dispute entre officiers, que l'on peut, quand il le faut, laisser 1 heure de plus au créneau sans qu'il gueule. Un de ces gars sur lesquels on peut compter, qui respectent leur chef et les aiment. À chaque permission, le vieux brigand rentrait sous, du calvados bien la musette, du vrai de chez lui, qu'il distribuait à la squade. Et toujours le lendemain, un peu gris encore et l'œil trouble, il venait m'apporter une fiole du meilleur qu'il avait eu la force de garder pour moi. Souvent, le soir, aux tranchées, nous causions de sa ferme, et je parlais culture avec lui. Vraiment, je l'ai bien regretté le soir de la mine. C'était un de ces hommes sûrs et dignes, comme il y en a quelques-uns dans la masse. Ceux-là, on ne les remplace pas quand ils sont morts. Jamais je n'oublierai le respect de cet homme quand il me parlait. Et pourtant, je n'ai que 23 ans. Il en avait 34. La lettre de sa femme est bien semblable à celle que nous recevons tous. Un gros papier rayé et sur l'enveloppe une adresse appliquée, travaillée, avec des tas de détails inutiles. La division, le numéro du corps d'armée. On sent que cette pauvre femme a peiné pour écrire convenablement, correctement à l'officier de son mari. Je transcris quelques passages. Excusez, monsieur le lieutenant, si je prends la liberté de vous demander des nouvelles de mon mari, Henri Lumeau, soldat à la 3e section. Et plus loin. Une voisine a reçu des nouvelles d'un soldat de la compagnie Ferrère qui était avec mon mari et qui est disparu. Et je sais que le régiment a eu des explosions de mines. Cette femme est la veuve d'un cultivateur et n'a pas d'instruction. Elle ne sait que travailler et donner toute sa force au dur labeur qui vieillit si vite. Pourtant, dans son cœur, quelle délicatesse, en rappelant l'affection de son mari pour moi. Monsieur le lieutenant, pardonnez-moi si je vous dis que mon mari, quand il venait en permission, parlait toujours de vous. Il disait qu'il vous aimait beaucoup et que vous l'estimiez. J'ai le cœur déchiré d'être sans nouvelles depuis un mois qu'il ne m'a pas écrit. Et je revois la mort de ce pauvre garçon. La mine a sauté vers 7 heures du soir, sur les prons des éparges, tout au bout de la crête, au fameux point X. L'entonnoir avait au moins 180 mètres de long. Tout un pan de la colline a glissé, creusant cette brèche effroyable. Lourmaud était au bas de la crête en petit poste, avec 2 camarades et 2 Ferrères, dont parle cette femme. Ils n'ont pas été tués par l'explosion, mais engloutis sous la masse de terre éboulée. 2 jours après, nous n'avions pu reconnaître l'endroit où ils étaient. Ce n'est que le jour de la relève qu'un sergent de chez moi crut reconnaître un arbre brisé qui servait de repère. 1 mètre à peu près du tronc dépassait. J'ai posé la pauvre lettre pitoyable. Je sens la tristesse qui monte, qui va me gâter un jour de calme. Qu'est-ce que cela d'ailleurs? Cette femme connaîtra bien d'autres souffrances. Je ne répondrai pas à sa lettre. D'abord, cela nous est défendu. Il faut écrire au trésorier du régiment, ou au dépôt, je ne sais pas au juste. Les officiers n'ont pas à répondre. Souvent, on le fait tout de même, par pitié. Mais moi, je n'ai jamais eu ce courage. Au fond, je crois qu'il vaut mieux quelquefois ne pas répondre. Cette malheureuse comprendra qu'il est mort. Il est inutile de lui dire nettement ce qui s'est passé. Non, vraiment, mieux vaut ne rien dire. Et puis, mon Dieu, n'y pensons plus. Notre calvaire est assez dur. Si nous devons penser à tous ceux qui sont morts, notre fardeau de tristesse deviendrait trop lourd à porter. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. Thank you.